VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 7 octobre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, manifestation à Ouagadougou en soutien au capitaine Ibrahim Traoré après des rumeurs de contestation interne à l'armée. Lancement en Afrique du Sud d'une fondation pour la démocratie en Afrique présidée par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Liberia, une ambassadrice américaine relance le débat sur l'absence de justice après la guerre civile de 1989 à 2003. Drame de Nador Melilla, peine de prison aggravée pour 18 migrants africains. Ukraine, le président américain Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Kiev regagne du terrain. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de jeunes ont manifesté hier après-midi à Ouagadougou pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du pays, après des rumeurs de contestations internes à l'armée. Jacques Aristide.
Agitant des drapeaux russes et burkinabés devant la radio-télévision nationale RTB, les protestataires ont dit être sortis spontanément pour défendre le capitaine Traoré contre des officiers généraux qui voudraient le destituer. « Nous avons appris que les généraux sont en concertation pour nommer l'un d'entre eux à la place du capitaine Traoré. Ça ne passera pas ni aujourd'hui ni demain », a déclaré le commerçant Amadou Kongo. Il y a une semaine, Ibrahim Traoré a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État en janvier dernier. Des rumeurs ont depuis couru à Ouagadougou sur une présumée division au sein de l'armée entre d'une part les officiers subalternes, dont le capitaine Traoré porterait les aspirations, et d'autre part les hauts gradés de l'armée, dont le lieutenant-colonel Damiba faisait partie. Après environ une heure de rassemblement, un militaire est venu rassurer les manifestants. Ce qui est en train d'être dit pour telle ou telle chose, ce n'est pas cela, on se calme, a-t-il dit. Le gouvernement a également démenti en fin d'après-midi des informations faisant état de généraux en réunion à l'état-major et des véhicules militaires qui descendraient sur Ouagadougou. Il les a qualifiés d'infondés.
Le président togolais Faure Gnassingbé, qui est arrivé hier après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, selon notre correspondante Delphine Boise, qui cite la télévision nationale, il s'agit d'une visite de travail et d'amitié. Faure Gnassingbé a été reçu au domicile de son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour leurs entretiens. À noter que le Togo assure la médiation dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet au Mali. Une fondation pour la démocratie en Afrique dont le principe avait été décidé il y a un an lors du sommet Afrique-France à Montpellier a été lancée officiellement hier à Johannesburg. Cette fondation sera présidée par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé en octobre 2021 la création d'un fonds d'innovation avec une gouvernance indépendante pour aider les acteurs du changement sur les questions de gouvernance et de démocratie. En Guinée équatoriale, les autorités ont annoncé hier la libération de 119 militants du CI, le parti d'opposition citoyen pour l'avenir, arrêté par la police lors d'un assaut de son siège la semaine dernière. L'opération avait fait 5 morts et conduit à l'arrestation de 150 sympathisants et du leader du parti, Gabriel Nzé Obiang. Le point avec Nanit Talani.
Le ministère de la Sécurité affirme avoir reçu l'instruction du chef de l'État de libérer les militants du parti CI arrêtés à Malabo et Bata, la capitale économique. Aucune charge n'a été retenue contre eux et entre 53 et 55 personnes, dont le leader du parti, Gabriel Nsé Obiang, sont encore détenues. Si le président a pardonné à ces gens, c'est en raison de son humanisme et parce qu'il est un partisan de la paix, a déclaré à la télévision d'État le secrétaire général du ministère de la Sécurité. L'ONG de défense des droits humains, Somos Sociedad Civil, condamne cet assaut, dénonce un terrorisme d'État et réclame une enquête indépendante. D'après le ministère équato-guinéen de la Sécurité, les forces de sécurité ont employé des moyens non létaux, ajoutant que 4 militants sont morts par inhalation de gaz lacrymogène, de même qu'un policier au cours de l'opération à Malabo au siège du parti CI, dissous en 2018. Le ministère ajoute que l'endroit abritait 200 personnes séquestrées et accuse M. Seobiang de préparer une insurrection le 3 novembre, dans une campagne contre le président Teodoro Obiang Nguema Sogo, au pouvoir depuis 43 ans et qui veut briguer un sixième mandat.
L'ambassadrice américaine chargée de la justice criminelle internationale, Beth Van Schaack, a poussé jeudi les autorités du Libéria à lancer des poursuites contre les responsables de crimes de guerre pendant la guerre civile qui a déchiré le pays de 1989 à 2003. Elle a fait cette guerre 250 000 morts et a été marquée par de nombreux massacres. De nombreuses personnalités impliquées dans le conflit occupent toujours des postes économiques et politiques importants au Libéria. Washington prend des mesures de contrôle des voyageurs en provenance de l'Ouganda en raison de l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans ce pays africain, Michel Joseph.
À partir de ce vendredi, tout passager à destination des États-Unis étant passé par l'Ouganda dans les 21 jours doit entrer par l'un des 5 aéroports suivants, New York, Newark dans le New Jersey, Atlanta, Chicago et Washington, a fait savoir le département d'État. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, la police des frontières, assureront des contrôles sanitaires renforcés à ces points d'entrée. Aucun vol direct ne relie l'Ouganda aux États-Unis, mais les CDC ont jugé nécessaire de renforcer les mesures d'inspection pour prévenir la propagation de l'Ebola. Ils avaient émis un avertissement après la déclaration le 20 septembre d'une épidémie de cette fièvre hémorragique par les autorités ougandaises. L'OMS a recensé jusqu'à mercredi 64 cas confirmés d'Ebola en Ouganda, dont 29 décès. Pour l'heure, aucun cas présumé ou confirmé n'a été détecté aux États-Unis, selon les CDC. Les États-Unis avaient imposé des mesures strictes après l'épidémie d'Ebola de 2014 en Afrique. 11 malades avaient été soignés dans les hôpitaux américains, dont 2 décès.
La justice marocaine a condamné jeudi soir en appel à 3 ans d'emprisonnement 18 migrants africains pour avoir pris part à la tentative meurtrière d'entrer en force fin juin dans l'enclave espagnole de Melilla, selon la défense. Ils avaient écopé de 11 mois de prison en première instance.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a mis en garde hier contre un risque d'apocalypse pour la première fois depuis la guerre froide en raison des menaces d'employer l'arme nucléaire par la Russie dont les troupes sont mises sous pression par la contre-offensive ukrainienne. Confronté à une résistance ukrainienne tenace alimentée par l'aide militaire occidentale, M. Poutine a fait une allusion à la bombe atomique dans un discours télévisé le 21 septembre. Les États-Unis ont adopté hier des sanctions contre 7 responsables iraniens pour la fermeture de l'accès à Internet et la répression des manifestants après la mort de Mahsa Amin, une jeune femme de 22 ans, dans les locaux de la police des mœurs. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis condamnent le gouvernement iranien pour la coupure d'Internet et la poursuite de la répression violente des manifestations pacifiques et n'hésitera pas à cibler ceux qui dirigent et soutiennent de telles actions. C'est ce qu'a déclaré Brian Nelson du sous-secrétariat du Trésor chargé de la lutte contre le terrorisme et du renseignement financier. Ce département dit avoir imposé des sanctions au ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, des communications, Eiza Zarpour, et Vaïd Mohamed Nasser Majid, chef de la cyberpolice iranienne, entre autres. Washington accuse Zarpour d'avoir dirigé les tentatives de blocage d'accès à Internet dans le but de ralentir les manifestations et Majid d'utiliser la cyberpolice pour surveiller les internautes iraniens, filtrer des sites web et bloquer le contenu. Les États-Unis ont aussi ciblé 2 responsables des gardiens de la révolution. L'action américaine gèle tous les actifs américains des personnes désignées et interdit aux Américains de traiter avec eux. Washington accuse les forces de l'ordre d'utiliser la force létale contre les manifestants. Des groupes de défense des droits de l'homme font état de plus de 150 morts lors de la répression menée par les forces de sécurité.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a refusé jeudi de débattre des exactions dont est accusé Pékin dans sa province du Xinjiang, une victoire pour la Chine et un revers pour les États-Unis qui y voient un aveu de paralysie de ce Conseil. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement nigérian attribuera des contrats pour son gaz torché d'ici fin décembre dans le cadre d'un programme accéléré d'exploitation gazière selon l'autorité de régulation pétrolière du pays. En 2020, Abuja a approuvé 200 soumissionnaires, mais le processus a été bloqué en raison de l'apparition de la pandémie de coronavirus. L'Égypte recevra 400 millions de dollars de la Banque mondiale pour développer les secteurs de la logistique et des transports et soutenir la transition vers des émissions de carbone plus faibles, annonce Reuters. Le projet se concentrera sur le développement d'un contournement ferroviaire dans le couloir congestionné d'Alexandrie. Il permettra aussi d'augmenter la capacité de fret et de décongestionner les zones à forte demande de trains de voyageurs. Pour terminer, le Cap-Vert construit un parc technologique qui lui permettra de devenir un pôle régional des technologies de l'information et de la communication grâce aux investissements opérés dans la transformation numérique. La première phase de construction des principaux bâtiments du parc, qui affiche un taux d'achèvement de 85%, sera terminée avant la fin de l'année. Plus de 15 entreprises internationales du secteur des technologies ont déjà manifesté leur intérêt pour le parc, financé par la Banque africaine de développement.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal, toujours premier en Afrique au classement FIFA.
Oui, sur le continent, les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, conservent leur trône au classement FIFA du mois de septembre, marqué par la Ligue des Nations pour les équipes européennes et les matchs amicaux pour les sélections africaines et les autres. Le Sénégal est suivi par le Maroc et la Tunisie, deux autres sélections africaines qualifiées pour le Mondial. Le Nigeria est quatrième, l'Algérie double le Cameroun et pointe à la cinquième place. Les Lions indomptables paient leur mois de septembre décevant avec des défaites contre l'Ouzbékistan 2-0 et la Corée du Sud 1-0. Au plan mondial, le Brésil, qui a détrôné la Belgique en mars, a conforté en septembre son rang de numéro 1 mondial, alors que la France, championne du monde, évincée du podium en juin, stagne à 4e place.
Le Mondial Qatar 2022 sera sûrement le dernier pour Lionel Messi.
La star du football argentin a déclaré que le prochain mondial du 20 novembre au 18 décembre au Qatar serait sûrement le dernier de sa carrière. C'est dans un entretien accordé à la chaîne sportive ESPN. Le capitaine de la Vie Céleste, 35 ans, a encore admis qu'il y a de l'anxiété, de la nervosité à l'approche du mondial. Concernant l'équipe d'Argentine, Lionel Messi estime qu'elle est actuellement dans une bonne passe. Notre équipe est très forte, mais tout peut arriver. Tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent et les choses ne se passent pas toujours comme prévu, ajoute Messi. Évoquant l'après-football, la Pulga a laissé la porte ouverte à toute éventualité. Je ne vais pas devenir entraîneur, mais Zinedine Zidane avait dit la même chose avant de le devenir, puis de remporter la Ligue des Champions, conclut Lionel Messi.
Megan Rapinoe veut des changements après le scandale des abus sexuels dans le football féminin américain.
La star du football américain a appelé à des changements dans la gestion du championnat des États-Unis après ce qu'elle qualifie d'horrifiantes révélations d'abus sexuels et de maltraitance. C'est difficile pour les joueuses. Certaines qui ont joué avec ces clubs et ces entraîneurs ont vraisemblablement été abusées d'une manière ou d'une autre. Dans des contextes différents, cela peut réveiller des traumatismes, estime Megan Rapinoe. Une enquête a révélé que plus de 200 joueuses du championnat de football féminin américain, dont certaines titulaires dans l'équipe nationale, ont été victimes d'abus et d'agressions sexuelles.
Merci, Yacouba. «
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Lors du coup d'État de vendredi dernier au Burkina Faso, des civils et des soldats sont descendus dans la rue avec des drapeaux russes, affirmant qu'ils souhaitaient que le partenariat de sécurité du pays avec la France soit remplacé par un partenariat avec la Russie. Dans ce reportage de Ouagadougou, Henri Hulkins parle de la désinformation russe et de son rôle dans le deuxième coup d'État connu par le pays en 8 mois. Un récit de Ginny Noua.
2 jours après que le nouveau chef de la junte burkinabé Ibrahim Traoré a annoncé à la télévision nationale que le chef du précédent coup d'État avait été renversé, l'un de ses soldats est sorti d'un véhicule blindé de l'ONU, apparemment volé, agitant un drapeau russe. Les rues de Ouagadougou étaient chaotiques. Devant l'ambassade de France, des manifestants ont également brandi des drapeaux russes. À l'ambassade, des manifestants descendent des barbelés, lancent des projectiles enflammés par-dessus les murs. Les forces françaises à l'intérieur ripostent avec des gaz lacrymogènes et des coups de semonce. Des manifestants courent se mettre à l'abri. La France est associée au Burkina Faso dans sa guerre de près de 7 ans contre les militants liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Mais le sentiment anti-français monte. Beaucoup pensent maintenant que la Russie est mieux placée pour résoudre les problèmes de sécurité du Burkina Faso. Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe paramilitaire controversé Wagner, a exprimé son soutien au nouveau chef de la junte. Selon l'AFP, Prigozhin a déclaré que Traoré et ses hommes ont fait ce qui était nécessaire pour le bien de leur peuple. Ismaël Sawadogo, qui tient une boutique dans la banlieue de Ouagadougou, soutient l'intervention russe.
La Russie a des armes, elle m'a tellement forte. Et il a une vision, c'est que nous, c'est que cette vision-là aussi, ça veut aider l'Afrique, comme ça veut aider l'Afrique aussi. Nous, on les veut.
Lorsqu'on lui a demandé où il avait obtenu son drapeau russe et ses vêtements aux couleurs de la Russie, il a répondu qu'il avait acheté le tissu et qu'un tailleur les avait confectionnés. Constantin Gouvy, analyste au Klingadel Institute, un groupe de réflexion néerlandais, a expliqué à la VOA comment l'intervention et la propagande russe au Mali voisin affectent la sécurité et sa transition d'une junte militaire à la démocratie.
Ce que nous voyons dans le cas du Mali, c'est que le contenu pro-russe est apparu à peu près au moment où la junte a plaidé en faveur de la prolongation de la transition. Ils ont ensuite plaidé en faveur de l'arrivée de Wagner. En ce qui concerne Wagner, ce que nous avons vu, c'est que cela a aggravé les choses sur pratiquement tous les indicateurs.
Un autre analyste a déclaré à la VOA que Wagner n'avait rien fait pour améliorer la situation au Mali et était surtout intéressé à perturber les efforts politiques français. Pendant ce temps, des gens comme Pascal Dima encaissent, ils sillonnent Ouagadougou à moto, vendant des drapeaux russes aux manifestants. Bien qu'il y ait des gains à court terme pour certains, les experts pensent qu'il semble probable que la Russie fera plus de mal que de bien quant à trouver une solution à long terme aux problèmes de sécurité du Burkina Faso.
Au Tchad, certaines résolutions du dialogue national inquiètent la communauté internationale. Dans ses décisions de samedi, le dialogue a prolongé de 2 ans maximum la période de transition vers des élections et autorise le général Mahamat Debi, chef du conseil militaire de transition, à brider la présidence du pays. L'Union européenne, l'Union africaine et Washington sont préoccupés par la durée de la transition et la clause d'éligibilité des autorités qui en assurent la conduite. Pour rappel, ce dialogue est boycotté par une partie de l'opposition ainsi que par la société civile et d'importants groupes politico-militaires. Yacouba Ouédraogo a joint à N'Djamena le politologue Évariste Ngarlem-Tondé. Il estime que ces résolutions du dialogue donnent raison à ceux qui l'ont boycotté.
Ça leur donne entièrement raison parce que le dialogue n'a pas abouti aux conclusions attendues. Le dialogue n'a pas parvenu à concilier l'opposition des partisans du changement et ceux du statu quo. Ce qui fait dire que les Tchadiens, dans leur grande majorité, voulaient qu'il y ait une évolution dans les mentalités. Faire en sorte que pour une fois, à l'issue de ce dialogue, que le pouvoir puisse se passer d'une manière démocratique. Vous savez, ça fait plusieurs années que le Tchad vit de transition en transition, d'un régime militaire à un autre régime militaire. Malheureusement, avec cette résolution, le président du CNT deviendra le président de transition. Il est éligible, donc il ira encore aux prochaines élections. Et en Afrique, il est rare que celui qui organise les élections les perde, donc il va encore gagner les élections d'ici 2 ans, et on conteste le fait que ce soit lui encore qui poursuive le mandat de son père, et on va s'installer dans une monarchie ou dans une dynastie héréditaire, et c'est ce que les Tchadiens ne veulent pas voir, et malheureusement, ceux qui avaient boudé le dialogue ont raison.
La communauté internationale fait pression, l'Union européenne exprime sa préoccupation, l'Union africaine avait demandé à ce que la transition prenne fin comme prévu dans ce mois d'octobre. Les États-Unis avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que cela va changer quelque chose?
Non, je ne pense pas que toutes ces pressions puissent changer quelque chose dans cette attitude, parce que ce n'est pas ce qui fera changer d'attitude au régime qui reste droit dans ses bottes.
À quoi faut-il s'attendre suite à ces résolutions du dialogue national inclusif?
On s'attendra certainement à des convulsions sur le terrain militaire. La population d'une manière générale, la société civile prendra ses responsabilités. Il faudrait bien que la population civile puisse s'organiser et se défendre soi-même au lieu d'attendre que la pression ne vienne que de l'extérieur.
Le politologue Évariste Merlem Toldé à N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le gouvernement ougandais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés affirment qu'une vague de réfugiés fuyant le conflit en République démocratique du Congo épuise les ressources et déchire les familles. Le HCR a déclaré que les agences humanitaires peuvent aider quelques 68 000 réfugiés congolais attendus en Ouganda, mais plus que le double de ce nombre, soit 150 000 réfugiés, devraient arriver d'ici la fin de l'année. Reportage d'Alima Atumani à Kisoro en Ouganda, récit de Dili Diko.
Des réfugiés congolais traversent la frontière ouest de l'Ouganda avec la République démocratique du Congo pour échapper à près d'un an de combat entre les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales de la RDC. Sendjiwa Gasigwa Philippe, l'un des nombreux réfugiés à se rendre en Ouganda, dit que les habitants ont été forcés de fuir lorsque des coups de feu les ont réveillés au milieu de la nuit.
Je suis d'abord venu avec juste quelques membres de ma famille car certains d'entre eux se sont perdus. Ce n'est que récemment que je les ai retrouvés. Nous avons été séparés pendant la nuit.
D'autres réfugiés n'ont pas eu cette chance. Amani Jidide a perdu le contact avec 3 de ses enfants et est sur le point de quitter un centre de transit pour un camp de réfugiés.
Là où je logeais, je n'avais pas de place. J'ai donc décidé de partir pour trouver un endroit où loger. Mes autres enfants, toujours portés disparus, avec l'amour de Dieu, vont être trouvés.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis janvier, 71 000 réfugiés sont entrés en Ouganda de la RDC et ce nombre devrait plus que doubler d'ici la fin de l'année. Le représentant ougandais de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Matthew Crenshaw, a déclaré que les ressources manquent fortement.
Si vous comparez les financements reçus en ce moment par rapport aux nouveaux besoins et que vous prenez en compte les chiffres de planification qui ont été revus à la hausse, nous n'avons reçu qu'environ 11% de ce qui devait arriver, et ce qui est terriblement insuffisant pour couvrir les besoins croissants de ces réfugiés.
Des responsables ougandais ont déclaré qu'un centre pour réfugiés a été ouvert pour soutenir le centre de transit qui est au maximum de ses capacités et qui accueille déjà quelques 14 000 réfugiés.
Nous utilisons 2 centres à la fois. Le centre de transit est prévu pour ceux qui sont prêts à se déplacer vers le camp. Le second centre a été mis en place pour ceux qui ont encore besoin de se décider ou qui attendent des membres de leur famille car nous connaissons les ravages de la guerre.
Les rebelles du M23 ont lancé des attaques contre les forces de la RDC en 2012, affirmant qu'ils luttaient pour la bonne gouvernance. Après avoir disparu pendant près d'une décennie, le groupe a repris les combats fin 2021, s'emparant de ce territoire frontalier et obligeant les réfugiés à fuir la violence. Le Congo a accusé à plusieurs reprises son voisin, le Rwanda, de soutenir le M23, une accusation que Kigali dément. Pendant ce temps, des réfugiés congolais comme Amani Jidide attendent, espérant retrouver leur famille et rentrer bientôt chez eux.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les représentants des 13 membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et leurs 10 alliés ont convenu d'une baisse de 2 millions de barils par jour pour le mois de novembre. Les pays de l'OPEP+, réunis mercredi à Vienne, ont décidé de cette coupe en vue de soutenir des prix affectés par les craintes de récession. Pour une analyse sur les implications de cette mesure, Eric Manirakiza a joint ici à Washington le politologue et économiste Jean-François Seznec.
Ça va faire monter le prix du pétrole assez drastiquement. Peut-être pas autant qu'on pourrait le craindre, parce que en fait, je viens de lire un rapport de quelqu'un qui connaît ces choses-là assez bien, qui m'a dit qu'en fait, ils vont couper de 2 millions de barils, mais en fait, en réalité, ça ne représentera qu'à peu près entre 400 000 et 1 million de barils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient couper production, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à produire de toute façon, comme le Nigeria, d'autres pays comme ça. Et ne comprend pas non plus la Russie qui est en dessous de sa limite de production. Mais ça va avoir une importance et ça va faire monter les prix certainement. Donc si les prix montent, ça va effectivement faire du mal à l'économie mondiale, parce que ça va faire monter l'inflation encore un coup, et ça va potentiellement forcer l'économie mondiale à aller en récession.
La décision de l'OPEP veut anticiper justement ce risque de récession. Est-ce que ce n'est pas une décision qui va plutôt avoir un effet contraire, accélérer le risque de la récession?
Ah oui, oui, absolument. Ça va effectivement accélérer le risque de la récession. Et je pense que l'OPEP plus prend un risque important là-dessus, parce que si la récession arrive, le prix du pétrole, ben là, à ce moment-là, se casser la figure. Donc, il est certain, à mon avis, et je suis d'accord avec la Maison-Blanche dans ce qu'ils ont dit hier, c'est que c'est un risque important pour l'économie mondiale, et c'est vraiment jouer avec le feu un petit peu.
Justement, la Maison-Blanche va injecter 10 millions de barils pour le mois de novembre. Est-ce que c'est suffisant pour amortir le choc?
Non, pas vraiment, non. 10 millions de barils, ça représente 5 bateaux. Donc c'est important, mais c'est pas énorme. Hein. C'est la production américaine pendant une journée, même moins que ça, la moitié d'une journée. Donc c'est pas quand même très important, mais c'est symbolique. Quoi. Ça veut dire que le gouvernement américain veut faire un gros effort pour montrer qu'ils essayent de contrôler un petit peu le prix. Mais je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que le prix ne va peut-être pas monter autant que ce que l'on peut craindre. Mais avec ces 10 millions de barils en plus, bon, ça va limiter le choc un petit peu pendant quelques jours de toute façon. Bon, c'est une bonne chose à faire, mais je pense qu'il y a quand même un côté politique. Je pense que la Maison-Blanche va être obligée de mettre beaucoup plus de pression sur l'Arabie Saoudite, mais à l'heure actuelle, les relations sont telles que c'est difficile, bien sûr.
Les pays à revenus faibles vont sans doute beaucoup souffrir.
Ah oui, absolument. Bon, les États-Unis vont survivre ça, parce qu'en plus, les prix sont en dollars. Donc, si nous, on a besoin de dollars aux États-Unis, on imprime des dollars, c'est plus rapide. Mais les pays qui sont obligés d'acheter des dollars vont souffrir beaucoup. Il faut se dire aussi qu'un pays qui va souffrir beaucoup, il y a un pays relativement riche, c'est la Chine, parce que la Chine est obligée de payer son pétrole encore en dollars. Eux vont souffrir plus que nous, en fait. Mais les pays pauvres vont souffrir énormément. Et je pense, surtout pour votre programme, je pense que les pays africains vont souffrir le plus.
C'était l'économiste Jean-François Seznec, chercheur pour le think tank Atlantic Council et pour le Middle East Institute. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seydoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.